Radio Prague, les informations.
Happening et marche de protestation des syndicats de la santé publique ce mardi à Prague. Vít Bárta a été élu à la tête du groupe parlementaire d'affaires publiques et météo alerte aux orages mercredi. Un happening des syndicats de la santé publique s'est déroulé ce mardi midi à Prague devant le ministère de la Santé. 1 000 000 de personnes y ont participé d'après les organisateurs, 500 d'après les chiffres de la police. Ce happening était suivi par une marche de protestation dans le centre de Prague en direction de la Chambre des députés. Les syndicats protestent contre la réforme du système de la santé publique prévue par le gouvernement. Les syndicats critiquent notamment l'introduction du système de soins supplémentaires ainsi que l'augmentation des frais d'hospitalisation à la charge du patient. Leur protestation est soutenue par de nombreuses associations qui représentent les handicapés, les patients ou encore les seniors. Le plus petit des trois partis de la coalition gouvernementale Affaires publiques a élu Vít Bárta à la tête de son groupe parlementaire. Monsieur Bárta, qui est considéré comme le leader officieux de ce parti de droite, avait démissionné de son poste de ministre des Transports au début de l'année en raison de soupçons de corruption. Sous la pression des partenaires, la coalition, il avait été écarté de toutes les fonctions importantes au sein de son parti et du gouvernement. Un comité parlementaire chargé de ces questions est à l'heure actuelle en train de débattre pour savoir s'il doit lever l'immunité parlementaire de Vít Bárta afin de permettre à la police de mener son enquête. Le parti Affaires publiques a élu M. Bárta à une forte majorité, arguant que les attaques contre sa personne étaient le résultat d'une campagne menée contre le parti qui s'efforce de faire avancer son dossier de politique anti-corruption. Des masseuses originaires de Thaïlande qui travaillent dans ce secteur en plein boom en République tchèque seraient employées dans des conditions qui seraient proches de l'esclavage. C'est le constat dressé par une ONG tchèque spécialisée dans le trafic des êtres humains, la Strada. Selon la directrice de cette ONG, les masseuses contractent souvent une importante dette envers leur employeur pour venir dans le pays et leur passeport est souvent confisqué jusqu'à ce qu'elle la rembourse. L'ONG indique avoir rencontré une dizaine de masseuses thaï et estime à 500 leur nombre total travaillant en République tchèque. Le collectif Stohoven, sous le coup de poursuites judiciaires en raison du projet Obchanka, était au tribunal mardi matin, mais cette fois en raison de la plainte déposée par eux même contre la police tchèque. Le projet Obchanka avait été présenté en juin 2010 sous forme d'une exposition présentant 12 cartes d'identité des membres, photographies modifiées, mais délivrées légalement par les autorités concernées. Le lendemain du vernissage, la police avait confisqué et en partie détruit l'œuvre d'art exposée afin de récupérer les cartes d'identité suspectes. Ce mardi matin, le collectif a décidé de retirer sa plainte pour la destruction de l'œuvre, mais par la voie de son avocat, demande à la police des excuses officielles ainsi que de leur rendre les cartes d'identité. Et puis, à noter également que face à la concurrence accrue de compagnies à bas prix, Air France mise sur un nouveau modèle, des vols au départ de Marseille à prix réduit, mais avec un service digne d'une compagnie traditionnelle afin de reprendre des parts de marché dès octobre. Air France va proposer depuis Marseille 13 nouvelles destinations, dont Prague. Et puis, on finit par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Marketa en République tchèque, les températures seront encore à la hausse, avec des maximales pouvant atteindre par endroits les 34 degrés. Les services météorologiques mettent en garde contre de violents orages qui pourraient frapper le territoire dès l'après-midi en raison de l'arrivée d'un front froid. Ces orages pourraient être accompagnés de chutes de grêle, de violentes précipitations ainsi que de bourrasques de vent. Prudence donc. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité, en cette période estivale, figure tout d'abord la mort d'une des légendes du hockey tchécoslovaque, premier joueur tchèque à avoir évolué dans la prestigieuse ligue nord-américaine NHL et grande figure des matchs légendaires disputés et remportés contre l'Union soviétique à la fin des années 1960. Jaroslav Hiržík est mort lundi dans un accident d'un avion qu'il pilotait. plus de précision dans quelques instants. Place ensuite sera faite à la musique et à un opéra de Vivaldi reconstitué par un chef d'orchestre tchèque à voir et à entendre actuellement à Prague. Et puis la seconde partie de notre programme et la rubrique du jour seront consacrées à la question de savoir s'il faut employer le fameux suffixe « ova », à savoir la forme féminine des noms de famille, surtout quand il s'agit de noms étrangers. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Une des légendes du hockey tchèque a donc disparu lundi. Premier joueur de l'Europe de l'Est autorisé à évoluer en NHL, la prestigieuse ligue professionnelle nord-américaine, Jaroslav Jiržík est mort dans un accident d'avion à Brno à l'âge de 71 ans lundi. La nouvelle a attristé un grand nombre d'amateurs de sport en République tchèque et les nostalgiques, bien entendu, bien plus encore. Le hockey tchèque a perdu une de ses grandes figures, un de ses joueurs qui font partie de sa riche histoire, ailier talentueux et dur au mal, indispensable à l'équipe nationale tchécoslovaque dont il porta 134 fois le maillot, essentiellement dans les années 1960. Jaroslav Jiržík, vice-champion olympique en 1968 à Grenoble, restera surtout dans la mémoire pour avoir été le premier tchèque à avoir joué en NHL. À l'été 1969, un an après l'écrasement du printemps de Prague et l'invasion du pays par les chars soviétiques, Jaroslav Jiržík avait été autorisé par la classe politique à rejoindre les États-Unis. Commentateur du hockey à la télévision tchèque, Robert Zaruba explique pour quelles raisons Jaroslav Jiržík avait alors été autorisé à quitter la Tchécoslovaquie.
Il y a une certaine libération politique chez nous qui a permis pour la première fois de négocier légalement un transfert d'un joueur en Amérique. Bien sûr, il fallait que le joueur remplisse certaines conditions, c'est-à-dire avoir au moins 30 ans et avoir disputé un nombre minimal de matchs en équipe nationale, ce qui était le cas de Jaroslav Jiržík. Un concours de circonstances a fait que c'est lui qui a été choisi et pas un autre joueur. Cela lui a permis de jouer 3 matchs avec les Blues de Saint-Louis. C'est donc vraiment le premier Tchèque à avoir évolué en NHL.
Mais Jaroslav Jiržík ne resta pas longtemps outre-Atlantique dans la célèbre ligue américano-canadienne qui ne comportait alors encore que 8 clubs, soit 22 de moins qu'aujourd'hui. Jaroslav Jiržík reste aussi bien connu et apprécié du public pour une autre raison. En mars 1969, quelques mois avant de se rendre à Saint-Louis, il avait fait partie de l'équipe de Tchécoslovaquie qui avait battu l'Union soviétique au championnat du monde 2 fois en l'espace d'une semaine. Deux victoires mémorables qui avaient fait descendre dans les rues de tout le pays des centaines de milliers de Tchèques et de Slovaques. Jaroslav Jiržík faisait partie des joueurs à avoir osé disputer la seconde rencontre avec un morceau de bande adhésive cachant l'étoile rouge à 5 branches qui figurait sur le maillot tchécoslovaque et symbolisait l'appartenance au camp communiste. Interrogé sur cette initiative symbolique par la télévision tchèque au moment de ses 70 ans, Jaroslav Jiržík s'était souvenu.
C'était une période où toute la nation, ou tout du moins presque toute la nation, se serrait les coudes. Nous étions 5 joueurs à avoir recouvert l'étoile rouge de notre maillot avec un morceau de bande adhésive noire. C'est moi qui en ai eu l'idée. J'ai dit aux autres que quand j'allais à l'école, il y avait une couronne au-dessus de la tête du lion de Bohême et pas une étoile. Les dirigeants nous ont laissé faire. D'ailleurs, on a surtout commencé à parler de ces maillots à notre retour au pays après le championnat du monde. Certains joueurs parmi nous étaient militaires. Ils ont dû s'expliquer. Aux autres, comme moi, on a conseillé de dire qu'il y avait des trous dans les maillots, même si bien sûr personne n'était dupe. Mais à l'époque, les gens étaient encore solidaires et on ne nous a pas embêtés plus que ça après cette affaire.
Lundi, Jaroslav Jiržík est donc mort dans un accident d'avion. C'est lui qui était le pilote de l'avion ultra-léger qui s'est écrasé dans les environs de Brno, en Moravie, suite à des problèmes techniques. La nouvelle a touché son ancien partenaire en équipe nationale, le Slovaque Josef Golonka.
Pour moi, c'est un choc terrible. Nous étions de très bons amis, non seulement sur la glace, mais aussi en dehors. Outre le hockey, nous avions aussi une passion commune pour l'aviation, une passion qui lui a été fatale. C'était un homme sur lequel j'ai pu toujours compter. Il se comportait dans la vie comme sur la glace. Je savais que je pouvais compter sur lui.
Dans les réactions qui ont suivi l'annonce de sa mort, certains ont fait remarquer que Jaroslav Jiržík était mort, comme il avait toujours vécu, en aventurier. Un aventurier qui restera donc le premier joueur tchèque en NHL, malgré son opposition au régime communiste. On passe à la musique. Ondřej Macek est un jeune chef d'orchestre tchèque qui aime la musique baroque. Il n'a pas encore 40 ans, mais son nom est déjà bien connu des spécialistes dans son pays comme à l'étranger. Il vient récemment de réaliser un nouveau coup d'éclat en reconstituant un opéra de Vivaldi dont la partition avait été perdue. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
L'Unione della Pace e di Marte, l'Union de la Paix et de Mars. C'est une serenata, un petit opéra, qui a été créé par Antonio Vivaldi à l'occasion de la naissance en 1727 des jumelles du roi de France Louis XV. De cette serenata, on ne connaissait que le livret, la partition n'a jamais été retrouvée. Ondřej Macek a donc décidé d'essayer de la reconstituer.
J'ai reconstitué la musique de cette sérénata à partir du texte complet du livret parce que je me suis rendu compte que la grande majorité des textes étaient les mêmes que dans d'autres opéras de Vivaldi dont nous avons les partitions. Donc ce n'est pas mon imagination, c'est la musique utilisée sur les mêmes vers ou sur des paraphrases. C'était une pratique courante chez les compositeurs de reprendre d'anciens airs pour leurs nouvelles créations. Handel et Bach le faisaient également.
En gros donc, Antonio Vivaldi aurait fait du recyclage pour honorer cette commande royale, ce qui a permis à Ondřej Macek, au bout d'une année de travail, de reconstituer minutieusement l'œuvre. Ce n'est pas la première fois que cet expert en musique baroque planche sur Vivaldi, c'est lui qui avait retrouvé une partie de la musique d'un opéra qu'on croyait perdu, Argipo, et avait complété la partition pour le jouer en public et enregistrer un CD, c'était en 2008. Et selon lui, il reste encore beaucoup d'œuvres perdues.
Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup d'opéras de célèbres compositeurs à trouver. Handel, Vivaldi. Rien que pour Vivaldi, on sait avec certitude qu'il a composé une quarantaine d'opéras et que seulement la moitié a pu être conservée. Les livrets étaient imprimés en beaucoup d'exemplaires pour tout le public, donc ont eu plus de chances d'être conservés, mais en général, il n'y avait qu'une seule partition qui a pu facilement disparaître.
Depuis son clavecin, Ondřej Macek dirige ce nouvel opéra ressuscité, donné à Prague avec son ensemble Hofmusici, dans le cadre du festival de musique baroque. L'Union de la Paix et de Mars sera jouée tout l'été dans le jardin Ledebourg, sous le château. Le chef d'orchestre tchèque travaille déjà en parallèle sur son prochain projet, qui porte à nouveau sur une œuvre disparue, une œuvre d'un autre grand compositeur, Handel.
Voilà, c'est donc avec cet opéra de Vivaldi que s'achèvent ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Comme chaque mardi, on retrouve maintenant la rubrique Panorama. Ova or not ova, telle est la question. Les Tchèques se posent de plus en plus la question de savoir s'il faut employer la forme féminine des noms de famille, surtout quand il s'agit de noms étrangers. Récemment, dans le quotidien Lidové Noviny, deux points de vue se sont confrontés. Pour certains, comme pour le traducteur Robert Novotny, il est important que le OVA soit utilisé pour que la langue tchèque puisse être employée correctement. Dans un article, Robert Novotny s'offusquait du fait que la presse, en parlant d'un événement concernant Katarzyna Jacques, dont le patronyme est français, ne parle pas de Jacquesova. En réaction, le sociologue Michal Hull s'est lui aussi fendu d'un article dans lequel il défendait le droit de ne pas porter le suffixe OVA. Il est au micro d'Alexis Rosenzweig pour cette nouvelle édition de Panorama.
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 Les suffixes de "-ova" sont une question de tradition, une question de la langue, mais dans le monde du 21e siècle, il y a des gens qui migrent, qui changent des pays, et par exemple, même en République tchèque, tout le 12e mariage est un mariage avec un étranger. C'est-à-dire, il faut un peu respecter les cultures des gens, les langues d'où les gens viennent, c'est-à-dire même par exemple si Madame Jacques, c'est-à-dire son mari était français, alors il est logique que le nom est Jacques et pas Jacova, parce que c'est une question de tradition, du respect de la langue française, et un débat entre les deux maris s'ils vont l'utiliser, oui ou non.
Alors, je crois que vous le rappelez dans votre article, ce "-ova", qui est aujourd'hui avec un "-a" accent, n'a pas toujours été "-ova" avec cet accent. Il était vraiment la marque de l'appartenance, c'est-à-dire selon la grammaire tchèque, c'était un "-a" court, donc ça voulait dire « celle de ».
Oui, historiquement, le suffixe "-ova" signifiait « elle appartenait à Monsieur Novak », c'est-à-dire Novakova était la femme de Novak, celle de Monsieur Novak. Bien sûr, si on réfléchit un peu, ça a une dimension un peu monstrueuse, affreuse, qui est qu'il faut un peu subir à une critique féministe. Mais bien sûr, dans ces jours, on ne le comprend pas comme Madame Novakova appartient à Monsieur Novak. Bien sûr, ça c'est une question d'histoire et d'existence de la langue tchèque ou bien des langues slaves. Mais c'est intéressant parce que souvent dans l'histoire, on peut trouver des relations qui sont un peu sous l'optique normale des jours. Souvent, par exemple, Pierre Bourdieu parle beaucoup que les dimensions du pouvoir sont bien cachées, par exemple dans la langue, et il faut en parler aussi à ces jours, même si c'est une question d'histoire.
Le fait que ces suffixes "-ova" soient employés ou pas provoque parfois des polémiques dans les médias. Et ça a été le cas, une commentatrice sportive avait, je crois que c'était il y a quelques mois, l'année dernière, refusé de décliner ou de mettre la forme "-ova" au nom d'athlète, de skieuse, je crois, étrangère. Et elle a été critiquée et même sanctionnée ou renvoyée de la télévision publique tchèque. Donc c'est un débat très contemporain, en fait.
Oui, c'est un débat qui est vif, parce que la langue tchèque se change aussi. Par exemple, il y a 50 ans, ou bien plus, 60 ans, 70 ans, le suffixe "-ova" n'était pas très utilisé si on utilisait les noms étrangers. Par exemple, si aujourd'hui on utilise certains noms étrangers, par exemple Edith Piaf, ben, on met pas Edith Piaf "-ova", on dit Edith Piaf. C'est une question de tradition, coïncidence.
Pareil pour Marilyn Monroe, on
oui,
dit pas Marilyn Monroe.
Il y a même par exemple Condoleezza Rice, mais aussi vous voyez les Français ils disent pas Michael Douglas, mais ils disent Michael Douglas, c'est-à-dire les Français ils changent les noms pour qu'ils soient mieux conformes à la langue française, c'est-à-dire c'est la même chose, les Tchèques ils changent un peu le nom pour qu'ils puissent l'utiliser dans la grammaire tchèque. Mais à mon avis ça a des limites. Et les limites sont, c'est l'identité de la personne qui porte le nom. C'est-à-dire, si on parle des personnes qui vivent en Amérique et qui sont des athlètes, à mon avis, c'est bien logique si on respecte la grammaire tchèque de dire "-ova", parce que ça n'a pas Il n'y a pas un fort argument pourquoi pas ne l'utiliser si la grammaire tchèque le respecte, pour respecter la grammaire tchèque. Mais si, par exemple, une Américaine vit en République tchèque et elle vit dans un milieu, elle veut que son nom de famille reste sans le suffixe OVA, sans le suffixe OVA, il faut le respecter. Parce que c'est une question d'identité et il faut respecter, par exemple, si quelqu'un est de s'appelle Jameson et sa fille s'appelle James Daughter, alors c'est une question en Irlande qu'il faut respecter. En Islande, pardon, qu'il faut respecter.
Vous êtes représentant au niveau de la politique locale et vous faites partie du conseil municipal de la mairie de Prague 2. À ce titre, vous voyez des couples se marier. Est-ce qu'il y a une évolution de jeunes femmes tchèques, par exemple, qui commencent à hésiter ou à ne pas vouloir la forme OVA?
Souvent, il y a un changement un peu que certaines femmes ne prend pas le nom de famille de son mari. Ça, il y a un changement ces derniers temps. C'est-à-dire, il y a une émancipation des femmes. Elles ont leur nom de famille de son père, qui reste leur nom de famille après le mariage. Ça, il y a un peu le changement. Mais si on parle des suffixes OVA, c'est simplement les mariages entre les étrangers et les tchèques, c'est-à-dire l'homme doit être étranger et la femme doit être tchèque pour que cette question est en jeu. C'est vrai que moi j'ai marié peu de couples comme ça, mais je me rappelle que par exemple il y a certains temps que j'ai marié un couple tchèque à un couple israël-tchèque. Et la femme, elle a eu le nom sans le suffixe OVA. Alors, il y a un changement, mais c'est pas une question de... Moi, je suis sociologue et je voudrais pas baser sur un ou deux cas et dire que c'est quelque chose de très fréquent ou si c'est la majorité ou la minorité. J'ai pas des statistiques. J'ai une remarque personnelle au nom de famille et le suffixe OVA. Que je dis souvent en tchèque, mon père quand il était en France, parce que ma sœur elle a étudié là-bas, elle a eu son bac à Strasbourg, et mon père l'a visité là-bas et il a rencontré le directeur de l'école, et quand ils ont quitté, quand ils ont parlé ensemble, et quand il a quitté l'école, le directeur il lui tenait la main et il lui a dit « Au revoir, monsieur Ulova ».
La réaction de votre père?
Il a souri, il a dit au revoir et il a quitté l'école.
Voilà, c'est donc avec le sociologue, non pas Ulova, mais bien Michal Hul, que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Michal Hul qui s'exprimait sur la question de savoir s'il faut employer le suffixe OVA, c'est-à-dire la forme féminine des noms de famille, surtout quand il s'agit de noms étrangers. Merci de votre attention. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition sur Radio Prague. À très bientôt.